Bonjour et bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast champ gauche du Cannes Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au tournant tactique qu'a pris la presse française. Quel est-il? Comment l'expliquer? Et justement, que faut-il expliquer et comment? Pour cela, j'ai deux invités. Dan Perez, de l'équipe, régulier de Big Five, l'excellent podcast de l'équipe. Et Maxime Brigand, de SoFoot, régulier du podcast de Coparena. Salut Dan.
Salut.
Salut Maxime.
Salut.
Eh bien, on va commencer. Donc évidemment, pour ceux qui suivent le football, ils savent qu'il y a un virage tactique qui a été pris, qu'il y a de plus en plus dans la presse d'analyses tactiques, que SoFoot a sorti un excellent tactique et code de jeu, préceptes et origines, paru aux éditions Marabout. Voilà, et tout le monde, c'est vrai que vous êtes de plus en plus lus aussi pour ça. Et donc la première question, c'est pourquoi ce virage tactique, Dan ?
Pourquoi ce virage tactique, c'est-à-dire qu'est-ce que tu appelles virage tactique ?
Quand j'étais jeune, on parlait peu finalement de tactique, il y avait peu de décryptage de la tactique des équipes. Voilà, on disait un jour ou deux jours avant le match de l'équipe de France, on mettait éventuellement la loupe sur tel ou tel bon joueur, mais on n'expliquait pas comment jouait l'équipe allemande, on n'expliquait pas comment était le on n'expliquait pas aussi finalement il y a des nouveaux termes qui sont arrivés jouer sans neuf, le piston, tout ça c'était ça existait peu dans la presse il y a 20 ans ou 30 ans.
Alors on va dire que on va commencer cette émission par un premier point de désaccord et je vais te raconter une anecdote. J'étais déjeunais la semaine dernière avec Patrick Urbini qui était le monsieur jeu de l'équipe puis de France Football pendant des dizaines d'années, qui est maintenant à la retraite depuis peu, et il me racontait tout ce qu'il faisait comme article. J'en avais déjà lu beaucoup, il m'en a envoyé quelques-uns des archives, et je peux te garantir que lui, je te donne cet exemple, mais il y a aussi Didier Braun et il y en a d'autres. Il y avait aussi un autre média qui s'appelait Les Miroirs du Football, qui aimait beaucoup parler de jeu. Ouais. Mais pour revenir à ce que me disait Patrick Urbini et ce que m'a montré, ce que j'ai vu, je te le transférerai. D'ailleurs, il y avait, contrairement à ce qu'on pense, il y avait énormément de sujets très profonds parfois sur le jeu. Et en plus, dans la presse écrite, il y a encore 20-30 ans, il y avait encore plus de place. Les journaux étaient plus épais. Il y avait évidemment pas Internet, donc on ne pouvait s'informer que par le journal. Donc il y avait la place pour faire des grands et longs papiers sur le jeu avec des graphiques, etc. Donc je suis pas en accord en fait avec l'idée que ce soit nouveau qu'on parle de jeu. Je me dis juste que vu qu'il y a une prolifération des médias et de que ce soit des médias officiels ou j'allais dire des médias particuliers, parce que une personne avec un compte Twitter peut tout à fait apporter une expertise de haut niveau maintenant dans un domaine ou dans lequel elle est spécialisée, ça élargit forcément les sources d'information dans tous les domaines et notamment sur le jeu.
D'accord. Quel est ton point de vue à toi, Maxime ?
Non, je suis complètement d'accord avec Dan. Quand vous retrouvez, je me suis déjà amusé à retrouver des vieux numéros du Miroir du Foot. Et en vrai, c'est vrai que c'était très détaillé. Il y avait des schémas.
Mais le Miroir du Foot, c'était quand même très particulier. C'était pointu. Ça s'adressait pas au plus grand nombre comme peut s'adresser l'équipe ou SoFoot.
Ouais, mais même des vieux France Foot. Je sais que chez mon père, il y a notamment, par exemple, des éditions rien que de la Coupe du Monde 98, des vieux papiers, vieilles éditions de l'équipe. Et dedans, il y a des papiers sur le jeu. C'est juste que peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus des captures d'écran, ce genre de choses qu'il n'y avait pas à l'époque. C'était plus des schémas graphiques dessinés. Mais le jeu était déjà très présent dans les discussions. Je pense simplement que avec Internet, il y a eu de nouvelles choses. Je sais que moi personnellement, l'éveil a commencé avec le blog anglais de Michael Cox qui s'appelait Zonal Marking, qui a commencé au début des années 2010, au moment de Guardiola, Mourinho, c'était à cette époque-là. Et donc c'est forcément, on parlait plus de jeu parce qu'il y avait aussi des entraîneurs qui en parlaient beaucoup. Et il y a eu des espèces de révolutions qu'on a vu naître, et forcément on s'y est tous intéressés, ou pas tous, mais en tout cas nous, je pense qu'on s'y est intéressés. Et avec Internet, il y a eu plus de blogs, ce genre de choses, et certains journalistes ont commencé à le faire. Moi aussi, je travaille souvent avec Florent Tonuti, qui a été un des premiers aussi à faire un blog en France sur le jeu. Et je pense que toute cette chose-là sont nées. Et après, moi, je sais que sur le sujet de la tactique, je différencie pas la tactique du reste, en fait. Par exemple, je sais pas si c'est le cas de Dan. Moi, si je suis venu au journalisme, c'est parce que j'aime raconter des histoires. Et faire un papier sur la tactique, c'est raconter une histoire, parce qu'un match est une histoire. Et c'est ni plus ni moins que la même approche que les autres papiers. Et que pour moi, un article sur le jeu, c'est une rubrique, finalement. Il y en a qui sont plus intéressés, comme dans un journal quotidien, vous avez des articles sur la culture, des articles sur l'économie, tout ça. Et ben, dans un journal de foot, ou un magazine de foot, ou un site de foot, vous avez des portraits, des interviews, et la tactique est une rubrique qui intéresse des gens. On a vu que ça intéressait les gens. Nous, ça nous intéressait, on aimait écrire dessus, et je pense que ce n'est comme ça. Mais je pense pas qu'il y ait eu un virage. Je pense qu'il y a peut-être eu un regain d'intérêt, peut-être, à la limite.
Mais justement, question un peu provocante, est-ce qu'on parle pas aussi plus de tactique par défaut, parce que les joueurs sont inaccessibles, parce qu'on sait moins ce qui se passe dans le vestiaire? Ça, c'est un de vos confrères qui m'a mis cette puce à l'oreille. Je trouvais que c'était intéressant. Dan,
en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui se passe sur le terrain, bon, c'est un peu une évidence que je vais dire, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui est le plus visible. Donc finalement, parler de jeu, c'est parler de ce qu'on voit le plus et ce qu'on voit le mieux. Parce que être dans la tête des joueurs, on sait que le facteur mental est fondamental, les relations dans le vestiaire et dans l'équipe sont prépondérantes dans la réussite d'une équipe, mais évidemment c'est moins palpable, c'est plus difficile à détecter. Le travail des journalistes qui suivent les clubs au quotidien, qui doivent dénicher les infos, est de plus en plus compliqué, même s'ils multiplient leurs sources et qu'il y a encore, pour parler de l'équipe, il y a encore beaucoup d'infos qui sortent, mais c'est vrai que les accès sont réduits, les interviews sont plus difficiles à obtenir, et puis aussi les clubs maintenant et les joueurs communiquent d'eux-mêmes sur les coulisses des entraînements. Alors évidemment, hein, c'est une communication officielle, donc très cadrée, on montre ce qu'on veut, etc. Mais sur le ça peut même interviewer des joueurs, voilà, on monte telle ou telle scène d'entraînement, etc. Donc le passionné va peut-être sans doute d'ailleurs être moins friand de ce genre de choses, c'est-à-dire que peut-être que à deux trois exceptions près, avoir une interview, ça paye peut-être moins, alors qu'avant, on va dire quoi, il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait seulement dans les médias que tu pouvais lire la parole d'un joueur ou d'un entraîneur que t'aimais bien. Donc ensuite, est-ce que c'est la tactique, c'est par défaut, je sais pas, peut-être que c'est peut-être que certains dirigeants de médias le pensent comme ça. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je pense Maxime non plus. Je pense qu'avant tout, en tout cas, je parle pour moi, mais je sais que Maxime, c'est pareil. C'est d'abord une histoire de passion. Hein. Moi, je suis passionné de foot déjà et puis du jeu depuis très longtemps. Et donc ça, voilà, les exemples qu'a cité Maxime, j'ai exactement les mêmes. C'est ça qui m'a donné envie de développer cette partie-là, cet aspect-là du foot et ce traitement-là du foot. Avec d'autres, comment dire, avec aussi d'autres inspirations, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais en tout cas, moi, je ressens pas, j'ai pas l'impression j'ai jamais eu l'impression de me lancer là-dedans par défaut. Au contraire, c'est par envie et par.
Mais t'as pas laissé de place. Voilà, le revers de cette question, c'est est-ce que finalement, t'as pas profité d'une place qui était vacante, quoi. T'as eu plus de place.
Si, forcément, parce que j'ai forcément quand tu rentres dans une rédaction, il faut y trouver une place. Donc oui, d'une certaine manière, on m'a fait une place, mais pour d'autres raisons, je suis pas forcément rentré pour ça. Et une fois le pied dedans, j'ai eu envie de faire ce genre de papier. Et puis ça. Voilà, ça a convenu, disons, à la direction, à la rédaction en chef, pardon, et on a vu que ça intéressait les lecteurs, et donc ça a été une espèce de cercle vertueux qui a permis de développer ces formats très vite. Et il y a déjà 6 ou 7 ans. À l'époque où l'équipe, puisque moi j'ai toujours bossé à l'équipe, à l'époque où l'équipe commençait à développer son offre numérique payante pour basculer son lectorat, une partie de son lectorat du papier au numérique, il fallait développer une offre payante sur le numérique. Et tous les médias s'y sont mis, évidemment, mais ça partait de très bas, et les papiers tactiques faisaient partie des contenus, on va dire, qui étaient censés premium. Apporter une valeur ajoutée ou premium avec d'autres choses qui ont commencé à permettre le développement de cette offre numérique. Mais il venait en complément de tout ce qui était déjà fait au sein de la rédaction, était des contenus riches et nombreux.
Et toi, Maxime, alors comment est-ce que tu es arrivé à faire ça et si tu peux éventuellement peut-être continuer en nous expliquant comment est-ce que vous travaillez, quels sont vos outils?
Moi, mon histoire est un peu similaire et un peu différente de celle de Dan, c'est-à-dire que moi aussi j'ai toujours travaillé dans le même média, donc SOFoot, moi j'y suis depuis 2014, et j'ai toujours été intéressé par le jeu, mais alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis arrivé par le biais du journalisme et par l'envie de raconter des histoires, donc déjà moi la tactique est une partie de mon travail, c'est-à-dire qu'à côté je fais beaucoup de portraits, des interviews, et je pense qu'il n'y a aucun truc où je prends le plus de plaisir que de faire une interview, notamment d'un coach, et même de parler de jeu, mais d'en parler avec quelqu'un, avec un professionnel du milieu, ce que nous on n'est pas, et c'est 10 fois plus intéressant, plus enrichissant, mais par contre je rejoins sur ce qui a été dit sur le fait que plus les mois passent, plus on se rend compte que la communication est fermée, que les réseaux sociaux ont permis aux joueurs, et on le voit dans d'autres sports, notamment le tennis où les joueurs en parlent beaucoup, c'est que les réseaux sociaux ont permis aux joueurs de récupérer le contrôle de leur communication. Et du coup, ils n'ont plus forcément besoin des médias. Donc, on a aujourd'hui une interaction avec eux qui peut être un peu particulière, mais ils comprennent quand même que c'est toujours intéressant de prendre la parole et que c'est toujours valorisant pour eux. Et la tactique. SoFoot, on avait Marcus qui faisait ça remarquablement bien et qui en a fait son métier, parce qu'aujourd'hui il est parti travailler à Arsenal et aujourd'hui il travaille pour une autre entreprise, mais qui lui était plus dans une approche très littéraire de la tactique. C'était un truc un peu différent, mais à SoFoot c'est lui qui a commencé à le faire. Et en fait Marcus est parti de SoFoot en 2016 pour aller travailler à Arsenal du coup. Et en fait, pendant quelques mois, il n'y a pas eu de papier sur le jeu. Et moi, j'ai toujours adoré ça, mais au départ, je faisais d'autres choses. Et puis, à un moment, on m'a proposé, on m'a dit, bah tiens, est-ce que tu, vu qu'on sait que t'aimes ça, t'adores ça, est-ce que tu voudrais un peu faire comme ce que faisait Marcus? J'ai pas voulu faire comme ce que faisait Marcus, mais j'ai voulu aussi amener ma différence, mais ma façon de faire, mon approche, mais de reprendre un peu le sujet tactique, parce que je pense que c'est important. On n'a pas de version payante. Et on, une fois, la seule fois qu'on a essayé de faire un papier payant, c'était un portrait que j'avais fait d'ailleurs dans le mag, qui était sur Luka Modric le jour où il avait le ballon d'or. On l'a fait, je pense qu'il a été payé par 5 personnes. Donc on s'est rendu compte que bon, les gens n'étaient pas forcément prêts à payer sur ce foot.
Ouais, je pense que c'est surtout les quotidiens peut-être qui,
ouais,
qui
ont pris
ce virage-là.
Ouais, ouais bien sûr.
Non, je... Vous n'êtes pas idiot. Hein,
de... Non, non,
pas
je
sais. Vous avez essayé, juste... vous avez vu. Hein. C'est vrai, c'était le...
C'est notre approche en tout cas qui est différente. Après, sur la façon, donc les outils avec lesquels je travaille, je pense que c'est plus ou moins les mêmes que Dan. J'ai un accès Y-Scout qui est un outil que les clubs ont tous, qui est un accès entre guillemets, un outil entre guillemets basique qui permet de revoir les matchs, qui a un outil de stats et qui est très poussé, mais qui permet surtout de revoir les matchs et de faire quelques montages de temps en temps. Et après, on travaille avec des services de stats et voilà, ce genre de choses qu'on fait des commandes avec Opta, tout ça. Et mais voilà, c'est ça les outils en gros. Et puis la façon de travailler, c'est on regarde le match et ce qui nous intéresse. Et en fait, je pense que tous les deux, on a la même histoire, c'est qu'on est, si on est passionné de foot, c'est parce qu'on est passionné de terrain. En fait, quand on aime le foot, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe autour a toujours été pour moi un peu de l'ordre du fantasme, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai jamais été dans la tête d'un joueur professionnel. Donc souvent, on raconte. Ah bah sur cette situation, il pense ça et tout. En fait, on ne sait pas. Et déjà, on sait même nous dans nos papiers, on dit bah voilà, tel entraîneur a fait ça, a fait ça. Et même ça, c'est un peu du fantasme parce qu'en fait, on ne sait pas. Et les entraîneurs, je sais que pour en parler très souvent avec eux, quand je les vois en interview pour ce foot, ils adorent notre travail, mais à chaque fois ils disent c'est bien, mais vous voyez une partie infime en fait. Et c'est vrai parce que le rêve, ça serait avant de faire ces papiers-là, de passer une semaine avec eux à l'entraînement. Avec les deux, d'ailleurs, les deux entraîneurs, et de raconter, voilà, bah, la semaine, ils ont travaillé ça, en match, c'est ressorti ça, et voilà, parce qu'on dit, l'entraîneur est bon, mais ça se trouve, ce qui sort le week-end n'est pas du tout ce qu'il avait préparé la semaine, donc au final, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, ça c'est, je laisse les autres en juger.
Ouais, sur ça, d'ailleurs, pardon Maxime, je te coupe, mais c'est intéressant, je te rejoins totalement, mais il y a aussi un truc qui me paraît important, c'est que quand on écrit un article, on le fait pas pour les coachs, même si on parle d'eux. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que il est évident, et je sais qu'on est d'accord là-dessus, que nous on voit pas forcément tout, et tout ce qu'on voit est déjà vu par les coachs. Ça c'est évident. Mais je dirais que même si on voyait tout, ça aurait pas grand intérêt journalistiquement et pour le lecteur de tout condenser dans un papier, parce que ce serait presque illisible et
bien sûr, mais l'intérêt c'est de raconter une histoire,
et beaucoup trop dense, ouais.
C'est de raconter une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, je sais que Marcus, pour en avoir parlé une ou deux fois avec lui, avait la même approche, c'est-à-dire que même toi, enfin, je sais que quand on parle avec des personnes qui écrivent ces papiers, on est un peu tous pareils, c'est que l'intérêt, c'est pas de raconter, on n'est pas là pour faire une leçon de tactique, en fait. L'idée, c'est de raconter l'affrontement, l'histoire de la rencontre, en racontant un rapport de force, parce que je sais que après ça, chacun a son idée, mais pour moi la tactique est la base de tout dans un match de foot, même s'il y a 10 000 aspects qui sont beaucoup plus irrationnels qui rentrent en cours de rencontre, et on l'a vu encore la semaine dernière, j'ai pas envie d'en parler avec Dan, j'ai pas envie de l'énerver, de réveiller ses vieux souvenirs qui sont encore très près.
T'as raison, poursuis.
Mais en tout cas, je pense que l'idée, ce qu'on veut faire dans cet appel-là, c'est
On a quelques jours du retour PSG Real avec...
Alors, on est après quelques jours, on est une semaine plus tard.
Ouais. C'est ça, une semaine plus tard, donc c'est un moment compliqué pour le PSG.
C'est c'est ça. Mais l'idée, c'est de raconter, disons, une histoire, l'histoire d'une rencontre, d'un rapport de force, et avec des références qu'on a vues, parce qu'on, je pense que là aussi, c'est un point commun, c'est qu'on on mange énormément de matchs, mais parce qu'on adore ça, et de tous les niveaux, et on puise aussi de ça, des visionnages, des discussions avec des coachs, des joueurs, des interviews qu'on fait, de beaucoup de lectures aussi. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de raconter une histoire et pas de faire une leçon bête et méchante avec un tableau noir.
D'accord, donc on a compris qu'il y a un certain nombre de différences entre votre travail et celui d'un coach.
Et c'est immense, pouvez... la différence est immense.
Ouais, ouais. Et c'est, et pardon, Alex, je te coupe, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus pour plusieurs raisons, notamment parce que il arrive à moitié en rigolant, tu sais, que après certains articles ou après certains matchs, on nous dise ah oui, mais tel coach, il aurait dû te lire, ou il aurait dû, ou alors tu devrais être entraîneur. Enfin, c'est ne pas comprendre l'écart abyssal qu'il y a entre le travail d'un coach et ce que nous on peut produire pour plusieurs raisons. Déjà un, parce que comme on l'a dit, ce qu'on évoque dans les papiers, c'est toujours c'est jamais complet par rapport à ce qui se joue sur le terrain. Même si on essaye de pas passer à côté de certains points essentiels du rapport de force tactique dans un match et des points essentiels de l'identité de jeu d'une équipe quand on écrit avant un match. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce qu'un coach a tellement de facteurs à gérer. En plus de la tactique, je relisais récemment une interview de David Guillon quand il était à Reims, une interview faite par mon collègue Johan Aubois, et Guillon disait voilà, en gros, lire le jeu d'une équipe, mettre en place une tactique, globalement, bon, même s'il y a des philosophies de jeu différentes, tous les coachs savent le faire. La difficulté, ça va être de convaincre ses joueurs, de réussir à faire en sorte de concerner tout le monde, de réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises ondes dans au sein de l'effectif, au sein du vestiaire, de garder une dynamique positive, etc., etc. Il y a beaucoup de il y a le paramètre physique, d'essayer de faire en sorte de pas avoir des blessés. Bon, il y a plein de choses, et donc le c'est vraiment important de d'insister sur ça. Notre travail est vraiment très différent de celui d'un coach ou de même ce qu'attendrait un coach d'un rapport sur l'adversaire, par exemple.
C'est clairement différent d'une analyse vidéo, par exemple. Aussi, nous, ce qu'on fait, c'est une analyse vidéo, c'est infiniment plus pointu, on est sur un truc et c'est complètement différent, honnêtement. Et là, je rejoins Dan, mais c'est pareil, pour en avoir parlé, quand j'avais vu Bruno Genesio en novembre, il avait la même réflexion, qui est une réflexion très juste sur les notes. Par exemple, on dit souvent, tel joueur, je sais pas l'équipe, parce que je dis l'équipe parce que c'est l'exemple le plus marquant, qui met des notes après les matchs. Nous aussi, on leur met 5 à Paul Pogba. Mais en fait, alors, c'est basé sur quoi cette note? Parce qu'en fait, on connaît pas les consignes, on sait pas ce qui a été demandé par l'entraîneur. Donc ça se trouve que nous, si on met 4 à Pogba, Deschamps va lui mettre, 8, parce qu'il va dire, il a respecté toutes les consignes et tout ce que je voulais faire, alors que nous, on dit, non, mais en fait, on sait pas, on connaît pas les consignes, on n'était pas là la semaine. Donc c'est vraiment un truc là-dessus. Et justement, ce que disait Dan est très vrai aussi, c'est que là, je suis en train de, je sais pas pourquoi j'ai retrouvé ce livre, qui s'appelle Secret de Coach, qui est un vieux livre qui a été fait avec Daniel Riolo.
Excellent.
Et c'est un excellent livre qui a vraiment, c'est une mine d'or.
Conseillé à tout le monde. Je sais pas s'il se trouve encore, mais vraiment, si vous aimez le jeu, il faut le lire.
Il y a des interviews avec Ancelotti, Benitez, enfin tout le monde, okay, vraiment tout le monde. Et en fait, ils ont tous un point commun, c'est que tous les entraîneurs disent que mettre une tactique en place est très simple, de faire un dessin sur un tableau est très simple, mais que le plus dur, c'est de convaincre ses joueurs et c'est la clé, en fait. Et c'est juste que les joueurs intègrent un discours, c'est hyper compliqué. Et ça, nous, on peut pas l'expliquer, en fait. Et c'est là où il faut avoir l'humilité de raconter que la tactique est intéressante, parce que, encore une fois, pour moi, c'est la base de tout, d'un rapport de force sur un terrain, mais ça n'explique que, 15% d'une rencontre. Tout le reste, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, et sinon, ça serait très simple, ça serait juste un jeu où on...
Alors, moi, je dirais 30, hein, mais c'est pas pour chipoter, mais je trouve que 15%, c'est C'est parce que t'es trop humble, Maxime.
Non, mais en fait, le truc, sinon, ça serait un truc, ça serait un subutéo, quoi. On bouge des trucs, des pions sur un tableau, et c'est hyper simple de raconter ça, mais je suis d'accord.
Un échec, peut-être, le jeu d'échecs.
Et pour moi, c'est pour ça que je trouve que la pire comparaison, c'est le foot, c'est des échecs. Non, le foot, c'est pas des échecs. Enfin, c'est 10 fois plus complexe que les échecs en termes de rapport, quoi.
Justement, est-ce que vous vous donnez comme mission de parfaire les connaissances tactiques de vos lecteurs et quel est le niveau d'expertise que vous pouvez offrir?
Non, je pense que là c'est pas un truc d'expertise, c'est un truc de se donner des clés de lecture en fait. C'est juste pour, je pars du principe que vu que c'est notre travail d'écrire sur le foot ou tout ça, je pars du principe qu'on a entre guillemets, en fait, le devoir, on regarde des matchs parce que c'est notre passion et tout ça, mais les gens qui nous lisent, en fait, la majorité, ils ont un travail, en fait, c'est un travail normal, parce que je trouve que moi, personnellement, je n'ai pas l'impression de travailler parce que c'est ma passion et que ce que je fais, j'ai la chance de faire ce travail et que je vais pas à l'usine, voilà. Donc, les gens qui font ça toute la semaine n'ont pas la chance de regarder autant de matchs que nous, n'ont pas le temps, en fait, pour le faire. Donc, nous, on essaye de mettre juste des clés de lecture, soit par des références passées, soit parce qu'on regarde des matchs en expliquant, ben voilà, telle équipe, ça fait 10 matchs qu'elle a ce circuit de passe, donc c'est pas surprenant que sur telle rencontre elle est ressortie, ou avant une rencontre ça pourrait se passer comme ça parce que ça fait 10 matchs qu'il joue comme ça, ou que tel joueur a cette position qu'il n'avait pas forcément avant. Donc c'est plus donner des clés de lecture plutôt que, et donc peut-être un peu de l'enrichir, mais on est encore une fois pas là pour donner une leçon entre guillemets aux lecteurs, faut les prendre par la main plutôt que d'avoir un truc une bête et méchant, quoi.
Ouais, moi c'est exactement ce qu'a dit Max sur le fait que nous c'était notre travail à plein temps. Bah c'est, je crois qu'on avait eu la discussion, et c'est ce que je lui disais aussi en privé quand on en discutait. Je suis complètement d'accord, ça nous donne moi je le ressens comme ça, ça me donne une responsabilité parce que les gens qui me lisent sont autant passionnés voire plus que moi,
et ils savent que moi j'ai la chance à essayer d'expliquer finalement les oui, d'expliquer pas seulement ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils vont voir, mais voilà aussi les grands changements ou d'expliquer des.
Si, bien sûr. Moi, j'ai l'impression d'être là pour ça.
Il y a un niveau à ce.
Ouais, mais justement, ce que je veux te dire, c'est que la responsabilité, justement, elle est née. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la passion est la même, mais le niveau de connaissance, nous on a l'obligation, je dirais professionnelle, d'apporter quelque chose parce que sinon encore une fois, comme disait Maxime, le mec qui rentre du boulot, lui il a passé la journée, je sais pas moi, au bureau, à l'usine, à conduire un bus ou un camion, il rentre, et moi j'ai passé la journée à avoir des matchs et à essayer de réfléchir à ce que produisait une équipe. Il faut que je lui apporte un regard enrichissant, au moins, ou quelques clés de compréhension.
Sans être incompréhensible, justement, c'est ça la difficulté.
Oui, un devoir pédagogique.
Oui, non, mais ouais. ça, si tu veux, ça, Alexandre, c'est comment dire, c'est, on pourrait dire ça de tous les journalistes, c'est-à-dire que évidemment, si t'écris et que ceux qui veulent te lire ne te comprennent pas, mais c'est pas de la faute de ceux qui te lisent, hein, c'est de ta faute. Voilà. Après, peut-être que, non, j'allais dire, en fait, tu sais quoi, j'allais dire la particularité, peut-être que sur les questions de jeu, c'est plus de la niche, donc tout le monde va pas avoir envie de lire, mais on pourrait dire ça de n'importe quel type de papier, en fait. Parce que souvent, on peut entendre, et ce qui est vrai, c'est-à-dire que les articles sur la tactique ou sur le jeu, n'intéressent pas à tout le monde. N'intéresse pas d'ailleurs tous les gens qui aiment le foot. Il y a des gens qui aiment le foot et qui aiment pas lire ce genre de papier, mais en fait ça marche avec tout. Il y a des gens qui aiment pas lire des reportages, il y a des gens qui aiment pas lire des interviews, des gens qui aiment plutôt lire telle ou telle rubrique. Donc voilà, il faut ça c'est un préalable, c'est-à-dire tu sais que tu t'adresses pas non plus à tout le monde. Mais si les seules personnes qui peuvent te lire ou te comprendre, c'est des gens qui sont dans les staffs techniques, ou qui sont dans le milieu du foot, bah en fait,
oui, t'as foiré ton papier. Un diplôme, exactement.
Mais t'as foiré ton papier, à mon avis. Hein.
Je suis complètement d'accord. Après, c'est comme, enfin, pour moi, c'est comme quand on va au cinéma, en fait. On va dire, on est une bande de potes de 10 personnes. Les 10 personnes n'y vont pas pour la même raison. Quand on va au stade pour voir un match, On n'y va pas pour les mêmes raisons. Et je pense qu'avec Dan, par exemple, on regarde pas un match de la même façon que certains de nos potes peuvent le faire. Par exemple, je sais qu'il y en a qui vont juste pour prendre un shot d'émotion. Nous aussi, mais aussi on va s'intéresser à un peu au jeu. On va un peu décrocher notre œil du ballon pour regarder un peu les déplacements, tout ça. ce que les autres font pas. Et je sais que souvent c'est un commentaire qui est souvent dans les papiers de certains lecteurs et qui disent souvent. Ah, c'est cool d'avoir ce papier parce qu'en fait, nous on est tellement omnibilés par le ballon qu'on regarde pas ce qui se passe et vous arrivez à voir ce truc-là, mais c'est parce que c'est une habitude, on a habitué notre œil à le faire. Et voilà, mais après, sur le côté, moi non plus, j'ai pas du tout envie qu'on soit lu que par des staffs techniques, mais c'est vrai que quand on échange avec eux et qu'ils nous disent des fois, ah tiens, j'ai lu tel papier de, je sais pas, de l'équipe ou de Eurosport qui était sur le jeu et qui était bien, je me dis que c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on raconte n'est pas totalement à côté de la plaque non plus. Et là, je me dis, donc ça va. C'est-à-dire qu'on est quand même dans le vrai et qu'on a été compris par des lecteurs. Là, la clé est réussie. C'est-à-dire que si les gens du milieu se disent que le papier est cool et qu'ils ont appris des choses eux-mêmes et que les lecteurs ont aimé ça, c'est-à-dire que tu as réussi ta mission. C'est-à-dire qu'en gros, les gens comptent. Là, c'est totale réussite. Et là, tu te dis, bon, là, je peux être satisfait. Mais par contre, là, c'est sûr qu'il y a un truc de pédagogie, mais c'est comme tout. Enfin, je veux dire, un papier qui est bourré de style, mais qui est illisible, c'est pas un papier bourré de style, c'est un papier lisible. Enfin... Ouais.
Justement, on va passer à quelque chose qui fait aussi le débat, c'est les datas et leur supposée ou surabondance. Moi, je considère que c'est plutôt une surabondance. Alors, quelle est, vous, votre position par rapport aux datas, et est-ce que vous considérez que ça explique dans quelle mesure est-ce que ça explique le jeu, et surtout est-ce que vous trouvez que les stats influencent l'analyse ou si c'est l'analyse qui doit expliquer la stat?
Si c'est les stats qui influencent l'analyse, c'est que c'est foiré. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les stats sont là pour confirmer ce qu'on a vu. Et d'ailleurs, je ne vais jamais regarder les statistiques pendant une rencontre même à la mi-temps. Ou peut-être des fois à la mi-temps pour vérifier un truc, mais sinon j'y vais bien après, limite une fois que j'ai revu le match, parce que j'ai peur sinon que mon regard soit biaisé, c'est-à-dire que je sais pas, un joueur a fait 8 tacles, ouais, bah du coup je vais regarder que lui, et enfin je pense qu'il c'est hyper dangereux, et d'ailleurs j'en suis revenu un peu moi dans l'écriture, avant je mettais beaucoup de stats, et en fait j'en mets de moins en moins, voire quasiment très rarement quoi, parce que je trouve que des fois ça peut être illisible, et en fait les chiffres n'expliquent pas ce qu'on a vu, c'est, ils viennent confirmer un truc, ils viennent appuyer notre argumentaire. Je sais pas ce qu'en pense Dan, mais ça c'est mon avis.
Oui, mais moi ça a toujours été ma ligne, donc je suis à 100% d'accord là-dessus. Alors après ça dépend de quelle stat on parle, je pense que là où la stat peut être intéressante, on va dire a priori, ça va être plutôt dans le fait de détecter une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sortirait du lot, ou un joueur qui sortirait du lot. Je sais pas, je te donne un exemple, tu regardes un peu, je sais pas, la création d'occasion comme ça dans le top 5 européen, si tu vois un joueur d'Empoli qui ressort complètement du lot, ça va te donner l'occasion, non pas d'écrire immédiatement sur lui, mais d'aller t'intéresser à lui ou à cette équipe-là. Parce que sinon, t'as pas forcément le temps. On voit beaucoup de matchs, mais on n'a pas forcément le temps de tout voir non plus. Donc ça peut, la stat peut avoir une utilité en amont dans ce domaine-là, mais elle doit, enfin, absolument pas remplacer l'œil. Ça c'est sûr, et puis après par rapport à ce que tu disais, le la surabondance, je pense qu'il y a aussi un truc de qui nous guette tous, mais il y a une espèce de facilité médiatiquement, on peut balancer des chiffres, c'est toujours plus simple que de voir un match, c'est toujours plus simple que de voir plusieurs matchs d'une équipe ou de construire un argumentaire, donc je pense que la surabondance que tu ressens, Alex, elle vient peut-être de là, à mon avis. Et en plus, c'est contre-productif parce que souvent, ces stats-là sont, comme toutes les stats, sont très biaisées, elles sont pas forcément expliquées, elles sont pas contextualisées, voilà, je vois par exemple, ils peuvent faire du bon travail par ailleurs, mais je vois la live win probability de Canal. Enfin, ça nous tue tous en fait, parce que
surtout, je comprends pas je sais pas comment elle fonctionne en fait.
Ben parce que voilà, c'est ce que je dis, parce que on sait pas comment elle fonctionne, ça parle à personne, il faut qu'on les croit sur parole. Enfin, c'est à mon avis, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans l'utilisation des stats, parce que dès que tu utilises une stat, c'est important de l'expliquer. Alors, tu dois pas passer ton temps à convaincre les sceptiques, parce qu'il y en aura toujours. Il y aura toujours des mecs qui vont dire les stats ça sert à rien, et même des mecs qui sont dans le foot, alors que tous les grands staffs de tous les grands clubs européens ont un département stats. Donc il faut faut être sacrément téméraire et peu humble pour venir dire moi j'aime le foot et je dis que les stats ça sert à rien. Donc t'auras toujours des sceptiques, mais en revanche t'as presque envie de leur donner raison quand tu vois les trucs comme la live win probability ou des expected goals balancés comme ça sans explication et comme une espèce de vérité
absolue
qui tomberait de haut comme ça.
Et qui différencie les bons des mauvais.
Voilà, mais c'est dommage par exemple qu'on n'utilise pas plus les stats pour différencier. Pour moi, elles sont aussi intéressantes pour différencier des identités de jeu, par exemple. Tu vois, plutôt que la qualité ou pas d'une équipe, si telle équipe a fait 30 centres et l'autre en a fait 3, c'est pas qu'il y a une équipe qui est meilleure, en fait. C'est pas que l'équipe qui a fait 30 centres est meilleure. Non, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que ça peut illustrer les différentes identités de jeu. Et là, ça peut devenir intéressant. Là, ça peut créer non pas un débat, mais un éclaircissement, une explication sur le jeu des équipes. Et là, oui, ça demande peut-être un peu plus de boulot ou de complexité, et donc ça prend plus de temps, et donc on le voit moins.
Oui, bien sûr, mais moi je suis en plus une espèce de marotte par rapport à ça. Je déteste les étiquettes, par exemple. C'est-à-dire que je comprends pas, en fait. Mais il y en a partout. Je sais pas ce que c'est le beau jeu, par exemple. Et ça, tout le monde en parle. Et en vrai. Moi, que ressortir encore d'un match comme hier, et je suis...
Lequel?
Non, parce que j'ai regardé Manchester United Atletico, parce que moi, j'aime beaucoup Manchester United, mais depuis toujours, depuis que je suis enfant, et sortir d'un match comme ça et qu'on me dise « Ouais, l'Atletico, c'est nul, c'est de l'anti-foot. » Non, c'est une approche. C'est juste une approche. Il faut respecter toutes les approches. Simeone a gagné comme ça, et il a gagné de différentes façons en plus, et souvent, on renferme, par exemple, Simeone dans une approche du foot qu'il n'a pas toujours pratiqué, et il l'a gagné d'autres manières. Et s'il gagne à la fin, c'est l'objectif. Donc c'est pareil. Et les stats, ça revient aussi là-dedans, ça contribue dans la même chose. C'est-à-dire que on peut faire dire tout ce qu'on veut à n'importe quelle stat. Des fois, moi, par exemple, il n'y a rien qui m'énerve plus que la stat. Et je sais que certains staffs sont, pour en avoir parlé avec eux, sont d'accord et en sont sortis. Waouh, super match de je sais pas quel joueur, on va dire Jonas Martin, au hasard. Il a fait 96% de passes réussies. Ok. Adrien Rabiot. Ouais, je vais aller plus loin. Adrien Rabiot, 96% de passes réussies. Très bien. Sauf qu'elles sont vers où les passes? Elles ont fait quoi? Elles ont provoqué quoi? Elles ont apporté quoi? Je dis ça parce qu'Adrien Rabiot, je trouve qu'il ralentit beaucoup le jeu, qu'il y a beaucoup de passes vers l'arrière, que machin, mais voilà, c'est comme ça, c'est après, il faut savoir ce qu'on veut faire dire au stat, et chaque stat explique quelque chose, mais elle peut dire aussi l'inverse, et c'est compliqué, mais comme le disait Dan tout à l'heure, par contre, elles peuvent être super utiles, pas plus tard que ce matin. Je me baladais sur des sites, tout ça, et je suis tombé sur. Je regardais des stats de Serie A et je regardais un peu ce que faisait le Genoa. Parce que je me disais, putain, ils font que des nuls et tout, mais j'ai l'impression que j'entendais depuis quelques semaines que ça revenait, et en fait, je me regardais ce que faisait Alexander Blessing, donc qui est l'entraîneur qui est arrivé, qui est le troisième entraîneur de la saison quand même du Genoa. Et en fait, tu te rends compte que depuis qu'il est arrivé, le Genoa a les meilleurs stats de pressing en Serie A, c'est l'équipe qui presse le plus, qui tacle le plus, qui fait le plus d'interceptions. Et tu dis, bon, ça raconte quelque chose dans son approche, et tu dis, tiens, c'est marrant, ça serait marrant de regarder un peu cette équipe, comment elle presse, est-ce qu'elle a vraiment elle embête les autres, comment ça se fait que peut-être la saison prochaine s'ils se sauvent, même si ça risque d'être compliqué, ça peut être une équipe intéressante à suivre, voilà ce genre de choses.
Le problème Alex, c'est qu'après il m'écrit pour me dire ça, donc forcément ça m'intéresse, mais alors qu'il y a déjà 15 matchs qu'il reste à voir avant samedi, et il dit faut absolument aller voir le Genoa parce que, et donc voilà, et donc ça nous rajoute des matchs et on annule les soirées, voilà, c'est comme ça qu'on a plus de vie.
Ouais, mais après, voilà, chaque petit truc, je sais que moi, par exemple, depuis en début de saison, alors c'est un entraîneur qui m'intéressait pas mal à Rennes, c'était Julien Stéphan, je suivais les résultats de Strasbourg, mais de loin, et en fait, à force de voir les...
Non, il faut regarder Strasbourg. C'est un principe de base, il faut regarder Strasbourg.
Et sur le début de saison, après, à force, je me suis dit, putain, mais en fait, il commence à inverser la tendance, ça commence à gagner. Et là, je me suis dit, bon, ok, il y a une petite trêve internationale, je vais me ramasser plein de matchs et je vais tous les revoir. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, j'en ai fait un papier pour SoFoot. Mais en fait, en regardant les stats, je me suis dit, mais attendez, mais cette équipe, elle fait des choses quand même. Les stats racontent quelque chose de cette équipe, en plus, les résultats. Et après, on va voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et ça confirme, ça infirme. Mais les stats peuvent révéler des choses. Mais après, pour moi, par exemple, encore une fois, le pourcentage de passes réussies, oui, bah, non, merci.
Justement, les stats peuvent révéler des choses, mais est-ce que les stats ne peuvent pas révéler des joueurs? Alors, vraiment, c'est-à-dire qu'un joueur qu'on avait peu remarqué, et finalement, quand on regarde les stats, on remarque qu'il a une influence qui est particulièrement importante, et est-ce que aussi on n'a pas maintenant créé des joueurs de stats, c'est-à-dire justement des joueurs qui qui vont soigner leurs stats, donc qui vont faire des passes, mais des passes qui sont sûres, des passes derrière à 1 mètre, des passes devant à 37 cm, est-ce qu'on n'a pas créé des monstres? Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui finalement savent que ça va être regardé, sont particulièrement, soignent leurs stats?
Ça, c'est pas pour les médias, en fait. Le problème, pour moi, il n'est pas pour les médias. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs aujourd'hui, il y en a beaucoup qui savent qu'en fait, il y a des départements d'analyse.
Je parle pas des médias, je parle en général.
Dans leur club, ils sortent et je sais que certains, par exemple, beaucoup de joueurs, aujourd'hui, pourquoi on a un problème dans le foot aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins de créateurs, des mecs qui dribblent, des mecs qui tentent des choses parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ont peur d'avoir des mauvaises stats. Et aujourd'hui, quand ils sortent du terrain, le premier truc qu'ils vont, souvent, ils vont demander la fiche de stats. Et ils regardent, j'ai fait tant de passes réussies, machin et tout. Et en fait, ils se rassurent comme ça, et ils ont peur de ça. Et je pense que ça, c'est le défaut qu'a pu avoir la stat aujourd'hui. En tout, très bonne chose, c'est que ça a révélé des joueurs. N'Golo Kanté, on connaît l'histoire, Leicester, tout ça, avec Opta, tout ça. Moi, dans le dernier SoFoot, j'ai été voir Damien Comoli, qui est président de Toulouse, qui a construit l'intégralité de son projet autour de la data, et qui a monté une équipe qui aujourd'hui marche sur la Ligue 2 et qui va probablement être en Ligue 1 l'année prochaine avec des joueurs assez formidables, qui a même recruté son coach là-dessus, tout est fait là-dessus, il prévoit des ventes là-dessus, enfin tout est construit autour de là-dessus, et ça peut, il y a des projets qui ont marché, Brentford ça a marché, Midtjylland ça a marché, il y a plein de clubs qui marchent avec les stats. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'aujourd'hui les joueurs, je pense qu'ils sont rentrer dans une phase comme ça où ils ont, pour certains, le besoin nécessaire d'avoir des stats absolument parfaites au risque de se faire désinguer.
Dan,
écoute, je souscris. Après, je pense que c'est pas payant à long terme pour le joueur, c'est-à-dire que comme tu disais, en imaginant un joueur qui essaierait de sécuriser toutes ses passes pour avoir un bon taux de réussite et pas perdre le ballon. Bon, au bout d'un moment, le coach, il voit que ça lui apporte peu en possession. Donc c'est, je pense que ce sera pas payant pour lui parce qu'au final, les matchs malgré tout sont vus. Donc j'ai pas encore cette crainte. Peut-être que s'il y a un domaine, où je me pose la question, c'est chez les jeunes défenseurs centraux, notamment dans la formation. J'ai eu parfois l'impression que il y avait des profils un peu trop interventionnistes dans la manière de défendre, qui perdaient un peu l'art de réduire le risque, Oui, non, mais je prends l'exemple d'Upamecano, pas du tout envie de m'acharner sur lui, mais il y a beaucoup de défenseurs comme ça qui peuvent émerger et être visibles parce que ils font beaucoup d'interventions, ils prennent beaucoup d'initiatives balle au pied, mais ils sont moins rodés à l'art pur de défendre. Tout simplement parce que ça se valorise plus difficilement en termes statistiques, et donc ça se valorise plus difficilement sur le marché, et donc les centres de formation les vendraient moins cher. Donc voilà, c'est encore un des dégâts du capitalisme. On en a aussi beaucoup dans le foot. Et Et c'est vrai que même si en France là on a un tel vivier de défenseurs centraux qu'on en trouve des très très bons et des qui aiment défendre, mais je trouve qu'on a vu émerger beaucoup plus de défenseurs centraux qui ont pas forcément le goût de défendre au sens pas seulement à défendre, c'est-à-dire jouer mon duel, intervenir, intercepter et être dans une espèce de qui-tout-doux parce que si je rate mon intervention, bah le gars part au but, mais plutôt l'art de défendre dans le genre, le je vais fermer les accès dangereux, je vais fermer les accès au but, j'ai presque pas besoin d'aller au sol, voilà le Nesta quoi. Je trouve qu'on a perdu un peu ça et je me demande à quel point c'est lié à la fois au chiffrage des performances et au capitalisme.
Ça crée des, c'est vrai que la stat peut créer des espèces de prototypes. Ça c'est indéniable. Et par exemple, je sais que j'ai entendu pendant 6 mois, je pense, un peu moins, 2 mois, 2-3 mois, que Marquinhos était un super défenseur cette saison, qu'il faisait une super saison parce qu'il avait fait, il a fait 2 fautes, non, c'est ça? Il avait quasiment pas fait de fautes. Il y avait une histoire comme ça, une stat qui ressortait. Et là, en fait, on a attendu le match contre Madrid pour dire, alors attendez, donc là, Marquinhos a raté son match, ce qui peut arriver. Mais en fait, Marquinhos, depuis plusieurs semaines, était beaucoup moins rassurant. Et même ça, passé sa première partie de saison, on faisait quand même des prestations beaucoup moins abouties, voire presque inquiétantes, hein, pour certaines. Et on s'est arrêté pendant longtemps sur une stat qui était, il fait pas de faute, donc c'est un super défenseur, raccourci bizarre. Déjà, on s'est réveillé sur une mauvaise performance pour dire voilà, mais bon, il y avait quand même des matchs. Quand tu regardes les matchs, je pense que certains supporters du PSG avaient déjà senti qu'il était peut-être pas si impérial qu'on pouvait le lire ou entendre à d'autres endroits. Mais voilà, donc la stat crée des prototypes et peut biaiser certaines lectures, je pense.
Parfait. Justement, pour conclure, on peut peut-être se demander finalement quel est le futur de l'analyse tactique dans la presse et est-ce que vous avez peut-être un rêve ou
est-ce que vous voyez le futur? Ce qu'a dit Maxime tout à l'heure, si on pouvait passer les séances d'entraînement avec les clubs pour pouvoir encore plus affiner le travail. Ce serait déjà génial et encore plus et un rêve mais encore plus inaccessible, on va dire. Un rêve encore plus inaccessible que celui-là serait d'avoir des accès libres aux droits d'image pour pouvoir montrer des vidéos, il vaut mieux arrêter de rêver tout de suite. Et je pense qu'il y a plus de chances de passer 3 semaines dans le vestiaire du Real que d'avoir accès aux droits de diffusion des matchs.
Moi j'ai pas de rêve là-dessus. Enfin, c'est vrai que je sais que
pas de rêve ou t'as plus de rêve?
Si, sinon ça sert à rien de vivre. on va pas se mentir. Je suis supporter de la Berrichon Château, donc si j'ai pas de rêve, je ne sais plus. Je sais qu'un temps, j'étais tellement à fond dans ce travail-là, et je sais que je parlais avec un ou deux clubs, je m'étais renseigné un peu, je m'étais dit, tiens, est-ce que tu irais pas voir au-dessus? Est-ce que tu m'étais renseigné un peu sur les formations? Et après, je me suis dit, non, en fait, toi, ce que t'aimes, c'est de raconter des histoires, tout ça. Donc, moi, je sais que moi, si j'avais un rêve, pour continuer un peu ce que disait Ben, j'aimerais énormément passer une saison entière au sein d'un club, et d'en sortir un livre ou un grand article et de raconter un peu, voilà, comme vivre tout de l'intérieur, voir si vraiment tout ce qui se prépare la semaine ressort le week-end, comment ça ressort, qu'est-ce qu'il en reste exactement, comment l'entraîneur réussit à convaincre ses joueurs. Mais en fait, ce qui me fascine dans le foot, et ça a toujours été, et c'est ce qui fait que j'écris sur ces sujets-là, c'est la personnalité de l'entraîneur, c'est la capacité d'une seule personne à convaincre tout un club, tout un staff, une carrière de personnes. Tout un stade dans une idée. Et c'est vrai que, je sais plus qui l'entraîneur disait ça, qu'en fait, la performance faite par son équipe doit refléter sa personnalité. Je crois que c'est Simeone qui l'a expliqué dans la vidéo qu'a partagé d'ailleurs Dan hier. sur Twitter. Et donc moi, ça serait ça mon rêve, ça serait et aussi d'avoir, j'aimerais bien avoir cette fameuse caméra tactique qu'on n'a jamais pour voir.
Ah ouais. Bien le mondial en Russie, c'était bien, on l'avait.
C'était merveilleux. Ouais. Donc ça, c'était
au mondial vidéo. En Russie, on avait donc une caméra, on avait accès à une caméra. Une vue aérienne du au-dessus du terrain, ce qui est fabuleux pour avoir un aperçu de complet de ce qui se joue tactiquement. C'est quasiment mieux qu'au stade parce que c'est le point de vue c'est le point de vue idéal, et c'est vrai que c'est dommage de pas avoir cet accès là. On a des applis Prime, Canal, de plus en plus sophistiqué, où vous pouvez changer, vous pouvez avoir le son d'une tribune, le son limite en anglais, en espagnol, couper la tribune Auteuil ou la tribune Boulogne, etc. Mais on peut pas choisir son plan et son plan de caméra, et c'est vrai que ça, c'est un regret, c'est un regret énorme.
Je pense qu'on va y venir parce que je sais qu'il y a des clubs, que ce soit notamment Montpellier, qui ont installé plusieurs caméras pour eux dans leur analyse vidéo, avoir ces caméras-là. Donc, il y en a beaucoup de clubs qui travaillent dessus. Donc, j'imagine que les télés, à un moment, vont y passer. Après, je sais que ce que je disais tout à l'heure, moi, ce que j'aime le plus dans ce boulot, au-delà de faire des analyses de match ou quoi que ce soit, c'est vraiment parler avec les entraîneurs, parler avec les joueurs et leur parler de jeu, parce que tu sens, en fait, que, on m'a toujours dit,
ouais, ça.
Ils adorent ça, en fait. Et moi, tout à l'heure, tu disais que je travaillais avec Copa Arena, donc une application qui a été lancée il y a peut-être 2 ans maintenant. Et en fait, on parle souvent avec des entraîneurs, des joueurs, et je sens qu'il y a aussi, c'est une application qui parle quasiment que de jeu. Et quand on leur parle que de ça, même nous, avec SoFoot ou d'autres, dans d'autres interviews, c'est l'interview de Lemina la semaine dernière dans l'équipe. Franchement, tu sens que le mec a le foot à l'intérieur des veines et que vraiment ils adorent ça. Donc c'est rassurant quand même. Ça veut dire que parler de jeu intéresse les joueurs, parler de jeu intéresse les gens. Donc je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Après, je pense qu'il faut un dosage comme tout. Il faut pas que tout devienne tactique parce que tout n'est pas tactique et il faut pas en faire trop. Je pense que là, on a tous plus ou moins le bon dosage et je pense qu'il faut le conserver comme ça, pas en faire plus. À la télé, on voit aussi que il y en a de plus en plus, même si, par exemple, j'aimerais bien, même si, par exemple, sur les consultants sur Amazon, je trouve qu'ils sont super, ils en parlent de plus en plus. Un Thierry Henry, un Baudemer, un Chéroux, ces gens-là, ils aident aussi, parce qu'ils parlent de plus en plus de jeux, et donc les téléspectateurs, ouvrent un peu le regard aussi. Moi, un Baudemer, aujourd'hui, même un Rudy Garcia, hier, qui était sur Canal, que je trouve excellent en consultant, il t'affine ton regard. Hier, typiquement, Rudy Garcia, dès le début de la rencontre, il te dit, regardez les décrochages de Maguire, dès qu'il suit son attaquant, ils sont mangés. Manchester prend le but là-dessus et l'Atlético a un but refusé sur une séquence exactement similaire. Donc c'est ces regards-là, ça vient aussi, les consultants, ils aident ça aussi, ils sont dans cette démarche-là. Et voilà, donc je pense qu'il y a une démarche collective qui est un peu là-dessus, on parle de jeu, on parle du reste, voilà, tout ça avec mesure et ça sera très bien.
Parfait, c'est une magnifique conclusion. Moi, je ne saurais que trop vous inviter à passer à Strasbourg, évidemment parce que j'y habite, mais aussi pour voir Julien Stéphan et beaucoup des entraînements qui sont accessibles à tout le monde, donc évidemment aux journalistes, mais aussi au public, aux supporters. Donc voilà, passez tous voir Julien Stéphan, surtout qu'en ce moment, pour le coup, il y a de la tactique, il y a du jeu, il y a du plaisir pour tout le monde.
Et l'Alsace fait un très bon whisky.
En plus.
Oui, alors, l'Alsace, c'est de très bons alcool blanc, de la bière, du vin. Pour le whisky, bien, je t'ai fait confiance, Dan. Mais voilà. Trop de dons, ça commence à faire peur, les jalousies vont poindre. Je voudrais remercier le Can Football Club d'accueillir le podcast. Sur la ligne, il est disponible sur toutes les plateformes. Il faut évidemment vous abonner pour ne louper aucun podcast. Je remercie bien sûr Dan Perez et Maxime Brigand qu'on peut retrouver sur Twitter avec des vidéos, des analyses, des choses absolument passionnantes s'il en est. Vos commerciaux, donc Dan Perez, @Dan-Perez, et Maxime Brigand. Donc, à commercial, Maxime, M-A-X-I-M-E, Brigand, B-R-I-G-A-N-D.
Merci @ c'est à commercial, alors, j'apprends quelque
chose. Alors, je sais, alors, les Québécois disent à commercial.
J'ai, ah d'accord.
J'ai pris cette habitude, mais tu as raison. C'est un podcast qui a des auditeurs aux quatre coins de la planète et ça fait vraiment mon plaisir et je voudrais encore les remercier. Donc voilà, le A commercial, c'est un petit coucou à mes amis québécois qui sont aussi férus de tactique.
On les salue.
Donc, et pour me retrouver, mon arrobase, moi commercial, MRFOOT, enfin, pour conclure, comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Merci encore, messieurs.
Salut, à bientôt. Merci à toi.
Ciao, merci.